Chapitre 4 La fournaise ardente. Dans la même année où Daniel et ses compagnons entrèrent au service du roi de Babylone, certains événements survinrent qui mirent sévèrement à l'épreuve l'intégrité de ces jeunes Hébreux et démontrèrent la puissance et la fidélité du Dieu d'Israël aux yeux d'une nation idolâtre. Alors que le roi Nebuchadnezzar réfléchissait à son avenir avec de sombres appréhensions, il eut un rêve remarquable qui le troubla beaucoup, tellement qu'il ne pouvait dormir. Daniel 2.1. Mais quoique cette vision nocturne ait laissé une forte impression sur son esprit, il était incapable de s'en rappeler les détails. Il fit appel aux astrologues et aux magiciens et il leur ordonna de lui révéler le rêve et son interprétation, leur promettant richesse et honneur en abondance. Mais ils lui firent cette réponse, « Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Daniel 2.4. Le roi savait que s'il pouvait réellement en donner l'interprétation, il pouvait tout aussi bien lui faire part du rêve. Dans sa providence, le Seigneur avait donné ce songe à Nebuchadnezzar et avait permis qu'il en oublie les détails tout en laissant sur son esprit une impression effrayante, tout ceci dans le but de dévoiler les prétentions des sages de Babylone. Le monarque fut très irrité et les menaça tous de mort si, après un certain temps, le rêve ne lui était pas révélé. Daniel et ses compagnons devaient également périr avec ces faux prophètes, mais Daniel s'aventura, au risque de sa vie, à paraître en présence du roi, demandant qu'on lui accorde du temps afin de montrer au roi le rêve et son interprétation. Le monarque accéda à sa requête et Daniel rassembla ses trois compagnons afin de soumettre la question au Dieu du ciel, cherchant la sagesse auprès de la source de la lumière et de la connaissance. Même s'ils étaient à la cour du roi et entourés de tentations, ils n'avaient pas oublié leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Ils étaient tout à fait conscients que sa providence les avait placés là et qu'il faisait son œuvre en se conformant aux exigences de la vérité et du devoir. Ils avaient confiance en Dieu. Ils s'étaient tournés vers lui pour obtenir la force requise dans les moments difficiles et dangereux et il avait été pour eux une aide toujours présente. Le secret révélé. Les serviteurs de Dieu ne plaidèrent pas en vain. Ils l'avaient honoré et maintenant, à l'heure de l'épreuve, ils les honoraient. Le secret fut révélé à Daniel qui se hâta de solliciter une entrevue auprès du roi. Le jeune captif juif se tient là devant le monarque du plus puissant empire terrestre qui ait jamais existé. Le roi se trouve en proie à une grande détresse au milieu de toutes ses richesses et de sa gloire, tandis que le jeune exilé respire la paix et la confiance en Dieu. C'est maintenant le temps pour Daniel de se faire valoir, de faire étalage de sa bonté et de sa sagesse supérieure. Mais son premier effort consiste à décliner tout honneur personnel et à exalter Dieu comme étant la source de toute sagesse. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 27 février 2028. Le roi écoute avec une attention solennelle tandis que les détails de son rêve lui sont révélés. Lorsque l'interprétation lui est fidèlement donnée, il a le sentiment qu'il peut l'accepter comme une révélation divine. Les vérités solennelles présentées dans cette vision nocturne laissèrent une profonde impression sur l'esprit du souverain, et, à la fois humilié et émerveillé, il se jeta par terre et se prosterna en disant, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. » Daniel 2.47. La statue d'or. La Providence avait permis qu'une lumière venant directement du ciel brille sur le roi Nebuchadnezzar, et il fut pendant une courte période influencé par la crainte de Dieu. Mais quelques années de prospérité remplirent son cœur d'orgueil et il oublia qu'il avait précédemment reconnu le Dieu vivant. Il reprit son culte idolâtre avec un zèle et une bigoterie accrue. Il fit fabriquer une statue d'or à partir de ses trésors de guerre afin de représenter celle qu'il avait vue dans son rêve, et il la fit ériger dans la plaine de Dura, ordonnant à tous les dirigeants et au peuple de l'adorer sous peine de mort. La statue mesurait environ 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Elle présentait un aspect des plus imposants et des plus majestueux aux yeux de ce peuple idolâtre. Un édit fut publié demandant à tous les administrateurs du royaume de s'assembler pour la dédicace de la statue, puis de se prosterner et de l'adorer au son des instruments de musique. Toute personne refusant de s'y conformer serait immédiatement jetée au milieu d'une fournaise ardente. Le jour désigné arriva et une grande foule se trouvait assemblée lorsqu'on vint rapporter au roi que les trois Hébreux qu'il avait établis en charge de la province de Babylone avaient refusé d'adorer la statue. Il s'agissait des trois compagnons de Daniel que le roi avait nommés Shadrach, Meshach et Abednego. Fou de rage, le monarque les fit venir devant lui et, leur indiquant la fournaise ardente, mentionna la punition qui leur serait infligée s'ils refusaient d'obéir à sa volonté. Mais les menaces du roi furent vaines. Il ne pouvait amener ces nobles hommes à se détourner de leur allégeance envers celui qui dirige les nations. Ils avaient appris de l'histoire de leurs ancêtres que la désobéissance envers Dieu signifie le déshonneur, le désastre et la ruine, tandis que la crainte du Seigneur est non seulement le commencement de la sagesse mais aussi le fondement de toute vraie prospérité. Ils considèrent avec calme la fournaise ardente et la foule idolâtre. Ils se sont confiés en Dieu, il ne les abandonnera pas maintenant. Leur réponse est respectueuse mais décidée, « Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Daniel 3.18. L'orgueilleux monarque est entouré de ses grands, des administrateurs de son gouvernement et de cette armée qui a conquis tant de nations. Tous sont réunis pour l'acclamer comme possédant la sagesse et la puissance des dieux. Au milieu de cette imposante manifestation se tiennent les trois jeunes Hébreux, persistant toujours dans leur refus d'obéir aux décrets du roi. Ils avaient obéi aux lois de Babylone tant qu'elles n'entraient pas en conflit avec les exigences divines, mais ils ne se laisseraient pas dévier d'un iota de leur devoir envers leur Créateur. Le roi ne put contenir davantage sa colère. Paraissant au sommet de sa puissance et de sa gloire, être ainsi défié par les représentants d'une nation captive et méprisée était une insulte que sa fierté ne pouvait supporter. La fournaise ardente ayant été chauffée cette fois plus qu'elle ne le devait, on y jeta les exilés hébreux. Les flammes étaient à ce point ardentes que les hommes qui les y jetèrent périrent brûlés. En présence de l'être infini. La figure du roi se mit soudain à pâlir de terreur. Ses yeux étaient fixés sur les flammes éclatantes et, se tournant vers ses grands, il leur dit, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Daniel 3.24. Ils lui répondirent, « Certainement, ô roi !» Et le monarque de s'exclamer. « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux Daniel 3.25. » Lorsque le Christ se manifeste personnellement aux hommes, une puissance invisible parle à leur âme. Ils sentent qu'ils sont en présence de l'être infini. Les rois et les nobles tremblent devant sa majesté et ils reconnaissent que le Dieu vivant domine sur toute puissance terrestre. Poussé par le remords et la honte, le roi s'exclama, « Vous, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Daniel 3.26. Ils obéirent, se montrant intacts devant cette vaste foule, l'odeur du feu n'ayant même pas touché leurs vêtements. Ce miracle produisit un changement saisissant dans l'esprit des gens. La grande statue d'or, élevée avec tant de faste, fut oubliée. Le roi publia un décret établissant que quiconque parlerait en mal du Dieu de ces hommes serait mis à mort, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui Daniel 3.29. Une ferme intégrité et une vie sanctifiée. Ces trois jeunes Hébreux possédaient la véritable sanctification. Le chrétien de principe ne s'arrête pas à peser les conséquences. Il ne se demande pas, « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si j'agis ainsi ou comment cela affectera-t-il mes perspectives d'avenir en ce monde ?» C'est avec le désir le plus intense que les enfants de Dieu désirent connaître sa volonté afin de pouvoir le glorifier par leurs œuvres. Le Seigneur a fait ample provision pour que le cœur et la vie de tous ses disciples puissent être dirigés par la grâce divine, de telle sorte qu'ils puissent être des flambeaux ardents pour éclairer le monde. Ces fidèles Hébreux possédaient de grands talents naturels, ils avaient bénéficié de la plus haute culture intellectuelle et ils occupaient maintenant une position élevée. Mais tout ceci ne les avait pas conduits à oublier Dieu. Leur capacité était soumise à l'influence sanctifiante de la grâce divine. Par leur ferme intégrité, ils honorèrent celui qui les avait appelés des ténèbres à son admirable lumière. La puissance et la majesté divine furent démontrées devant cette vaste assemblée dans la merveilleuse délivrance opérée en leur faveur. Jésus lui-même se plaça à leur côté dans la fournaise ardente, par la gloire de sa présence, convainquit l'orgueilleux roi de Babylone qu'il ne pouvait être autre que le Fils de Dieu. La lumière céleste avait brillé par l'entremise de Daniel et de ses compagnons jusqu'à ce que tous ceux qui les côtoyaient aient compris la foi qui ennoblissait leur vie et embellissait leur caractère. Par la délivrance de ses fidèles serviteurs, le Seigneur déclare qu'il se tiendra près de ceux qui sont opprimés et renversera toute puissance terrestre qui voudra fouler aux pieds l'autorité du Dieu du ciel. Une leçon pour ceux qui manquent de courage. Quelle leçon est ici donnée à ceux qui manquent de courage, qui sont vacillants, qui craignent de prendre position pour la cause de Dieu? Quel encouragement pour ceux qui ne se seront pas laissés détourner du devoir par les menaces ou le danger? Ces personnes fidèles et fermes sont un exemple de sanctification bien qu'elles ne pensent aucunement à se réclamer d'un tel honneur. La quantité de bien qui peut être accomplie par des chrétiens comparativement effacés mais pieux ne pourra être estimée à sa juste valeur que lorsque les récits de leur vie seront dévoilés, lorsque le jugement prendra place et que les livres seront ouverts. Le Christ s'intéresse à cette classe de gens. Il n'a pas honte de les appeler frères. Là où il n'y en a maintenant qu'une seule parmi nous, il devrait y avoir des centaines de personnes tellement unies à Dieu et vivant en conformité si étroite avec sa volonté qu'elles seraient des lumières éclatantes et brillantes, totalement sanctifiées de corps, d'âme et d'esprit. Le conflit se poursuit entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Ceux qui invoquent le nom du Christ devraient secouer la léthargie qui affaiblit leurs efforts et faire face aux responsabilités importantes qui leur incombent. Tous ceux qui le font peuvent s'attendre à ce que la puissance divine se révèle en eux. Le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, sera représenté par leurs paroles et leurs œuvres et le nom de Dieu en sera glorifié. Comme au jour de Shadrach, Mésach et Abednego, le Seigneur agira avec puissance en cette période finale de l'histoire terrestre en faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la justice. Celui qui a marché avec ses nobles Hébreux dans la fournaise ardente sera avec ses disciples où qu'ils se trouvent. Sa présence constante les consolera et les soutiendra. Au milieu du temps de trouble, un trouble comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, ses élus demeureront inébranlables. Satan et toutes les armées du mal ne peuvent détruire le plus faible des saints de Dieu. Ainsi des anges puissants les protégeront et le Seigneur se révélera, eux, comme le Dieu des dieux, capable de sauver parfaitement ceux qui ont mis leur confiance en lui, prophète et roi, page 390.